the chemical food, no beg pardon. Rasta.
Bonjour tout le monde, Spectaculaire commence, mercredi 17 janvier 2024, émission 318, Christophe pour le micro. Je suis malheureux, je suis sans Francis, mais je suis extrêmement heureux quand même et très content, réjoui, puisque Olivier Borle et David Mambouche sont présents, ils reviennent même, ils sont déjà venus, auditeurs, auditrices, oui, ils sont déjà venus maintes fois. 19 fois pour Olivier, 14 fois pour David, non, mais pas loin, j'indiquerai dans quelles émissions vous pourrez trouver des renseignements sur nos deux invités qui viennent nous parler d'une œuvre quand même assez stupéfiante, puisqu'ils l'ont écrite. Ils la mettent en scène et ils jouent également, ils interprètent les personnages de cette pièce Suzanne qui sera donnée à la comédie, au théâtre Comédie Odéon du mardi 23 janvier, c'est mardi prochain jusqu'au samedi 10 février. C'est à 21h, relâche les lundis et une belle durée, un peu plus d'une heure, 1h15, 1h20, c'est bien. J'évoquerai en fin d'émission une belle pièce qui dure 3h, c'est rude et puis peut-être que Olivier nous parlera d'une pièce à venir, une pièce très importante. Commençons avec de la musique. Ce n'est pas la version de Leonard Cohen que vous allez entendre, c'est celle de Nina Simone pour chanter cette belle chanson. Suzanne, années 60, je crois, 70, et qui est complètement liée à ce spectacle qui commence la semaine prochaine. Voilà. Vous nous écoutez, vous le faites très bien sur radiocanu.org si c'est sur internet. Et si c'est à Lyon, c'est aussi une excellente chose. C'est sur le 102.2 de la bande FM.
Down to a place by the river, you can hear the boats go by, you can spend the night forever, and you know that she's half crazy, and that's why you want to be there, and she feeds you tea and oranges that come all the way from China. Just when you mean to tell her that you have no love to give her, she gets you on her wavelength and she lets the river answer that you've always been her lover. You, or you touched her perfect body with your mind, yeah. Now Jesus was a sailor when he walked upon the water, and he spent a long time watching from his lonely wooden tower, and when he was broken long before the sky would open, forsaken, almost human, he sank beneath your wisdom like a stone. Suzanne takes your hand and she leaves.
Salvation Army counters in the sun pours down like honey on Our Lady of the Harbor, and she shows you where to look between the garbage and the flowers. There are heroes in the seaweed. There are children in the morning. They are leaning, leaning out for love, and they will lean that way forever while Suzanne holds the mirror.
On est allé jusqu'au terme du morceau. Bonjour David. Bonjour Olivier.
Bonjour.
Et oui, quand même David. Oui, auditeur, auditrice, on discutait hors antenne. Oui, on se permet ça. Oui, j'ai lu quand même le texte, puisque oui. La première n'a pas encore eu lieu. Ce sera le mardi 23 janvier prochain.
Moi, je dois le lire encore, mais je...
Nous recevons auditeur, auditrice, David Mambouche et Olivier Borle, qui viennent parler d'eux-mêmes, vous allez voir, dans une première partie d'émission, et puis surtout de cette pièce que nous venons d'évoquer, Suzanne, qu'ils ont écrite, qu'ils mettent en scène et qu'ils interprètent également. C'est eux les personnages sur scène. Cette pièce qui sera au Théâtre Comédie Odéon du mardi 23 janvier, 21h, jusqu'au samedi 10 février. Attention, relâche les lundis. Et donc, cette pièce, vous connaissez Olivier, ça fait déjà, la 17e, donc 16e, émission numéro 10. Vous êtes déjà venu le 9 septembre 2013. 2013, il y a déjà 11 ans. Vous êtes également revenu, avec quel plaisir, après avoir évoqué une saison au Congo, vous étiez venu parler encore d'Aimé Césaire pour cahier d'un retour au pays natal, émission numéro 40, le 24 septembre 2014, ça va bientôt faire 10 ans, et vous étiez même revenu, émission 250, oui, il y a eu un trou, le 5 janvier 2022, ah ben là, ça fait presque pile 2 ans pour parler de Mangeclou, c'est une excellente chose, et vous étiez venu, vous également, David, vous êtes déjà venu, c'était l'émission, j'ai retrouvé cette date, c'était en mars 2015, l'émission numéro 57, le mercredi 4 mars, pour parler de Juan, qui était au TNP. Donc, peut-être première partie d'émission, auditeur, auditrice, je vous renvoie à ces différentes émissions, même si celle de David, c'est peut-être un peu compliqué de la réécouter. Je vous renvoie à ces émissions pour en savoir davantage sur nos invités qui ont déjà brossé un portrait, mais je leur ai proposé cela à l'instant. Je vous le propose également tout de suite, là, maintenant. Pourriez-vous, peut-être à défaut de faire un portrait complet des beaux artistes que vous êtes, c'est un terme que j'avais employé, Olivier, et je maintiens encore la chose. J'ai des souvenirs de Juan, des tableaux, des moments scénographiques qui étaient absolument mais stupéfiants avec la lumière, tout ça. Donc pourriez-vous peut-être vous présenter en fait comme vous l'entendez, c'est-à-dire peut-être parler de votre amitié, car je crois savoir que vous êtes un peu copain, un peu ami. Est-ce que vous pourriez aussi parler de... Oui, c'est ça, oui, il me semble, Olivier a l'air de douter. Donc, une première partie, et puis ensuite, nous entrerons davantage dans le détail de cette pièce, mais on peut peut-être le dire tout de suite, Olivier, on n'évoquera pas tout. Hein. David, rassurez-vous, on n'évoquera pas tout, parce qu'il y a un peu pièce à mystère. Il y a une deuxième partie, si on souhaite la connaître.
Il faut laisser du suspense.
Il faut laisser du suspense.
Tout à fait.
Il faut y aller. Olivier, alphabétiquement, je crois qu'Olivier Borle, vous pourriez être le premier, mais David Mambouche, vous pourriez aussi, ou peut-être un discours à deux voix. Hein. Comment vous présentez tous les deux ?
Eh ben, je vais commencer. Je voudrais juste préciser que donc on joue bien du 23 janvier au 10 février, que on est en relâche les lundis et dimanches, est aussi en relâche exceptionnellement le vendredi 26
janvier.
Janvier, puisqu'on a la compagnie présente une date de notre petite cerisée à Chassieux au Caravane Théâtre, et que donc du coup, comme je joue dans le spectacle, je peux pas être dans les deux en même temps, voilà.
Comédie Odéon, donc cette pièce Suzanne. Moi, il me semble qu'on pourrait reprendre, Olivier, le premier souvenir que vous avez quand vous avez rencontré David Mambouche en 2001, septembre, c'est ça ?
Ouais, tout à fait. Ça, on peut commencer par là. David et moi, on s'est rencontrés à l'ENSAT, à l'école de théâtre de Lyon. On était tous les deux dans le département d'art dramatique. J'avais une année j'étais dans une promotion supérieure à lui. En fait, on est devenus amis assez vite. Même sans être dans la même promotion, on est devenus amis très vite. Et on a tout de suite tissé une amitié qui s'est liée autour du travail, autour de beaucoup de passions communes, d'un dialogue commun. J'écrivais l'autre jour, en parlant de nous, je parlais du dialogue artistique. Je trouve que c'est assez juste. On est quand même tout le temps en train de parler de trucs
de tout et de rien.
De tout et de rien, mais de travail aussi, d'art et
de cinéma.
Et de cinéma, ouais, de théâtre, de cinéma, de musique, enfin de beaucoup de choses. Et on a toujours aimé dialoguer ensemble à des endroits où on est très proches, mais on se ressemble, mais il y a plein d'endroits où on est très différents, David et moi. Et en fait, depuis cette période-là, on a toujours travaillé ensemble. Principalement après, ensuite, au TNP quand même, où moi j'ai fait partie de la troupe pendant pratiquement 13 ou 14 saisons. David pendant
7-8
saisons aussi.
7-8 saisons.
Le spectacle Juan, je ne sais pas si on l'a bien dit, a bien été monté au TNP. Vous êtes venu, Olivier Bord, pour parler d'une saison au Congo qui était également donnée au TNP, Théâtre National Populaire. On peut donner son nom au metteur en scène de cette époque. Ce n'était
bien
pas
sûr.
Encore Jean Bellorini.
Non, c'était Christian Scaretti. Donc on a travaillé avec Christian Scaretti dans sa troupe pendant pas mal d'années ensemble. Mais parallèlement à ça, on travaillait aussi sur plein d'autres projets, David et moi. On écrivait des films, on réalisait des films. Et en fait, voilà, David et moi, on a toujours travaillé dans des tas de configurations différentes. On a écrit des films ensemble, on a réalisé des films ensemble. Je l'ai dirigé dans certains de mes spectacles, il m'a dirigé dans certains de ses spectacles. J'ai monté ses textes, il a composé la musique de Manche-Clou. Enfin, on a toujours collaboré à des endroits très différents, dans des configurations très différentes, toujours assez heureuses, il faut le dire, puisque ça nous a toujours donné envie de continuer. On a été beaucoup partenaires, dirigés par d'autres, par Christian notamment. Et là, on a voulu faire une chose qu'on n'avait jamais faite.
Voilà.
Vas-y, je te laisse un peu parler.
Non, vas-y, continue, parce que tu le fais bien.
D'accord. Bah, en fait, là, ce qu'on a voulu faire, c'est écrire une pièce à deux. En fait, on a voulu faire un projet où... En fait, c'est parti d'une discussion un jour à Ramdam, je crois, où on s'est dit, mais ça serait bien qu'on fasse un petit truc juste toi et moi.
Mm-hmm. Juste une petite forme.
Ouais, voilà, une petite chose qui ne demanderait pas une grosse production.
Tout à fait. Ouais. Je me souviens qu'on s'était dit, en fait, le théâtre, c'est toujours quand même. L'essence du théâtre, c'est quand même deux chaises et deux personnes qui se parlent, quoi. C'est deux personnes qui ont des choses à se dire.
Le décor secondaire.
Voilà, on s'est dit, voilà, il y a le décor et même j'ai envie de dire tout dans le processus qui nous fascinait, c'était cette idée que deux personnages échangeaient profondément à partir des mots, quoi. Donc il y avait besoin de rien que de se parler. Et c'est comme et puis aussi pendant depuis très longtemps on voulait faire quelque chose de drôle.
Ouais.
Et donc on a décidé de s'y confronter et on s'est rendu compte que c'était pas facile. En fait,
c'est vrai qu'on a et donc du coup on a écrit une pièce. On s'est dit qu'on voulait écrire une histoire. On voulait que ce soit une histoire lisible, compréhensible, comme une fable en fait, simple. Comme un conte, quelque chose de simple, mais qui pourrait, qui soit drôle, qui soit une comédie. Et qui évidemment pourrait parler de thèmes beaucoup plus profonds qui nous touchent intimement, que ce soit des thèmes contemporains, des thèmes d'actualité, mais surtout du point de vue de notre intimité aussi, parce que voilà, on a des choses à qu'on a envie de transmettre. Et donc, mais on voulait que ça reste transmettre tout ça, mais de la manière la plus légère possible. Et on voulait, donc on s'est dit qu'il fallait qu'on écrive une pièce d'abord, avant de la jouer, avant de la mettre en scène, qu'on écrive un objet littéraire, qu'on le fabrique, cet objet, à quatre mains, dans l'idée même que quelqu'un d'autre pourrait un jour, pas forcément comme si nous, on allait le jouer nous, quoi.
Ouais. En même temps, paradoxalement, on a commencé à l'écrire en faisant des improvisations où on s'est déguisé et on a commencé à jouer. On a quand même cherché les personnages et comme tu le disais bien l'autre jour dans une interview qu'on a donnée.
Mais que vous êtes sollicité, c'est très bien.
Moi, bon, c'était le théâtre qui nous interviewait, ouais. Donc c'était pas France Culture. Mais.
Ils sont pas encore manifestés.
Non, c'est toujours pareil.
On les salue.
Ouais.
Vous commencez à Cagnon, on n'arrête pas de vous couper, David.
C'est pas moi que vous coupez, c'est Olivier, puisque je le cite.
Donc il disait dans cette interview.
Il disait que c'était les personnages qui avaient écrit la pièce. Et c'est un peu juste parce qu'en fait, on s'est glissé d'abord dans ces personnages, on les a inventés, on en a beaucoup parlé, et on les a inventés, comme tu le disais, à partir de problématiques. On a un petit peu fait le mixage entre des expériences personnelles, intimes, très importantes pour nous. nous et des problématiques contemporaines qui nous touchent. Et en quoi ces expériences intimes et ces problématiques contemporaines qui peuvent toucher n'importe qui aujourd'hui et qui parleront aujourd'hui à tout un chacun sont connectées. Et on a essayé de les connecter à travers ces deux personnages. Et à partir du moment où on avait ces deux personnages et qu'ils étaient en dialogue, ben le reste, j'ai envie de dire, ça a coulé un peu de source. Ça a été beaucoup, beaucoup, beaucoup de les faire parler, ensemble, quoi.
Ouais, et puis d'essayer de garder ce ton de comédie le plus longtemps possible, le plus loin possible, de le tenir le plus longtemps possible. Et c'est vrai qu'au final, on n'a pas écrit une comédie pure dans le sens où ce ne serait qu'un divertissement en comique. Mais nous, on aime bien Agnès Jaoui et Jean-Pierre Bacri, leur écriture de leurs pièces, de leurs films. Et voilà, je pense qu'il y a une référence un peu à ça, ou Astier, par moments, je trouve. Moi, j'aime bien Alexandre Astier, j'aime bien son écriture, et j'aime bien comme de temps en temps, sous le comique, il essaye de quand même de dire des choses profondes, intimes, etc. Mais bon, on avait plein de références. Mais donc, du coup, je pense qu'au final, Suzanne, c'est quand même une pièce qui a son humour, qui a une grande charge d'humour, mais qui a aussi beaucoup d'humanité, qui charrie, je l'espère, beaucoup d'émotions. Après, on va voir comment le public nous la restitue, parce que ça, c'est très mystérieux. On l'a joué qu'une fois pour l'instant à Vandamme.
Il y a quand même une sorte d'une générale, ou disons une première, oui.
Il a une grosse sortie de résidence qui était en fait comme une première, en fait.
C'est ça, c'était notre dernier jour de résidence de création avant la reprise maintenant à l'Odéon. Donc il fallait qu'on ait tout fini, que ce soit fait, et en même temps, c'était pas le début, c'était la fin du processus de création. Donc c'était une première et un dernier jour de travail en même temps. Mais c'est vrai qu'on peut pas trop en dire, on ne veut pas trop en dire sur les thématiques abordées dans la pièce. On pourra en parler de certaines, mais il y en a certaines qu'on va pas aborder parce qu'en fait elles sont révélées, elles se révèlent au fur et à mesure d'une intrigue qui est très simple en réalité, mais voilà, qui a d'autant plus de saveur qu'on en ignore les tenants et les aboutissants.
Ouais, tout à fait. C'est vrai qu'on emprunte beaucoup au code du polar. Hitchcock est une référence importante pour l'écriture de cette pièce, le suspense, le mystère. Et puis au-delà de ça, moi c'est vrai que je pense que c'est une chose qu'on partage avec David. Moi c'est vrai que j'aime bien maintenant, quand je découvre un livre, un film, une histoire, une œuvre d'art, en savoir le moins possible avant, pour essayer d'être le plus surpris possible, parce que je trouve que je pense que c'est lié à la profusion des propositions qu'on a à cause de je sais pas quoi. Enfin, il y a tellement de livres, tellement d'expositions, tellement de peintures, tellement de films, tellement de séries, que maintenant on a un petit peu tendance, vous savez, tu vois, s'il y a cet algorithme de certaines plateforme.
Vous avez aimé, vous aimerez.
Voilà, exactement. Et je trouve ça parfois un peu dommage. Alors moi, je fais une éducation radicale avec mes enfants pour leur interdire de lire les quatrièmes de couverture.
Ah là voilà. Là,
c'est bien. Il n'y a pas que ça, il y a aussi le fait qu'il faut que tout soit balisé par avance. Il faut déjà que ce soit un thème qui va nous flatter. Enfin, il y a plein de choses qui doivent être balisées en amont de ce qu'on va découvrir, comme si on avait besoin de reconfirmer sans cesse notre morale, nos goûts, etc. Au lieu d'aller vers quelque chose en se disant je sais pas ce qui va se passer, je vais peut-être pas être d'accord avec ce qui va être dit ou ce que je vais voir, mais en même temps je vais, voilà, c'est vivant, je vais avoir une conversation,
je vais être remué par quelque chose,
voilà.
Ouais, puis c'est vraiment rigolo, je trouve. Enfin, c'est vraiment intéressant de regarder un objet en disant mais qu'est-ce que c'est, mais ça va où, mais j'en sais rien, mais pourquoi, mais de pas savoir ce qui va se passer ensuite. Ça permet, en particulier au théâtre, je trouve, de savourer encore plus l'instant présent et ce qui se passe, quoi, et l'immédiateté de l'œuvre telle qu'elle nous est délivrée. Ouais. Quoi. Nous, on a vraiment écrit la pièce comme ça, en se préoccupant, et ça c'est un principe hitchcockien très fort, en se préoccupant de, à ce moment-là du récit, où en est le spectateur. Ouais. Est-ce qu'il en sait plus que les personnages? Est-ce que les personnages en savent plus que lui? Donc on a vraiment écrit la pièce comme ça, un peu mathématiquement, en disant, attends, là on peut pas écrire ça, parce que là ils vont...
Oui, quand est-ce qu'on donne quel indice pour que le spectateur soit toujours, qu'on sache exactement où il est, et qu'il soit entre de bonnes mains. C'est-à-dire que l'idée, c'est pas de le perdre, c'est de le perdre gentiment, le temps de retomber sur ses pattes et qu'il ait tous les tenants et les aboutissants de la situation dans laquelle se trouvent ses personnages, mais après un twist.
Ouais, et il faut pas qu'il s'ennuie. C'est quand même le péché le péché mortel, je trouve, au théâtre, c'est de s'ennuyer. On sait bien que s'ennuyer au théâtre, c'est terrible, quoi. Alors nous, donc du coup, cette espèce de pièce à mystère, cette espèce de mécanique d'intrigue, nous permet, je pense, après on va le vérifier, mais je pense pense que je suis assez sûr que ça marche, de maintenir le spectateur, la spectatrice dans un état...
En haleine.
D'enquête, quoi.
Vous le disiez tout à l'heure, David, vous parliez de suspense.
Oui, voilà. C'est ça. Et c'est vrai que c'est aussi une manière de pas... parce qu'on a parlé de thématiques contemporaines et de sujets qui nous touchent, et ils y sont, évidemment, mais on ne voulait pas délivrer de messages. On ne voulait pas arriver en disant, voilà, on parle d'un sujet. On ne voulait pas avoir tout ce côté...
Pontifiant,
c'est ça,
moralisateur.
Absolument, c'est sont les mots justes. Non, au contraire, on voulait que les gens ressortent avec ces thèmes dans la tête, mais après avoir vécu un moment drôle, amusant, avec des personnages qui ressortent en ayant l'impression d'avoir passé une soirée avec deux personnes, en fait.
Ouais. Ah, plus que des personnages.
Même avec deux personnes, et qui ressortent avec ces personnes dans le souvenir, comme si c'était des gens de leur famille ou qu'ils ont connus, et en même temps, derrière l'histoire qu'ils ont. En fait, qui s'est raconté dans cette fiction, en fait, ça parle de choses qui vont peut-être maturer, qui sont là, mais qui sont pas au centre. Ce qui est au centre, c'est l'humanité, c'est la relation entre ces personnes.
Entre deux personnes.
Oui, tout à fait. C'est très juste.
Je bois vos paroles et je les lis également. Le dossier de création est précieux. J'extrais ces éléments qui, me semble-t-il, confirment bien cette idée qu'il y a eu un vrai travail qui a été fait sur le texte. Dans un second temps, nous nous sommes emparés de la matière littéraire et l'avons travaillé au plateau. Nous l'avons lu, compulsé, improvisé, déconstruite, réécrite, appropriée. Donc oui, un texte qui a été écrit, mais qui ensuite a été adapté à ce spectacle. Et j'arrive à ce dernier temps de votre processus de création. Enfin est venu le temps de la mise en scène. Auditeur, auditrice, vous souhaiteriez savoir de quoi parle Suzanne, parce que je crois qu'on est quand même très fort. À 14h26, on n'a pas encore tout à fait dit ce que c'était. Eh bien, je crois que c'est une grande habileté de David Mambouche. Il y a du suspense. Vous aimeriez savoir? Bien, patientez quelques instants. Nous allons écouter un nouveau titre. Nous allons écouter Je ne connaissais pas. Merci, invité, d'avoir assuré la programmation musicale. Blame, c'est l'official version, je crois, de Gabriels. Donc, écoutons ce titre pour lancer une deuxième partie d'émission qui va davantage parler de Suzanne. Cette pièce, on peut qualifier ça de pièce, ou alors un olni.
Même, vous pouvez même dire cette femme.
Un olni, un objet dramatique non identifié qui sera au théâtre Comédie Odéon du mardi 23 janvier au samedi 10 février, avec relâche les lundis et les dimanches, ainsi que le vendredi 26 janvier. Et nous, là, auditeurs, auditrices, là hors antenne, on va discuter. Je crois que c'était très intéressant cette halte. Olivier Borle, halte à la bande-annonce. Arrêtons la culture de la bande-annonce avec sans arrêt. Voici tout ce qui va se passer. On va quand même vous indiquer quelques éléments une fois qu'on aura écouté donc Blame de Gabriels.
Mornings turn to night and then the night becomes the day. I can't keep up with time. I keep losing still, keep hoping for that when a new can change my mind. Slave if I'm already free, not a captive if it's where I wanna be. Lies and shambles underneath the flashing lights. Gonna stay a while. Said what I say, don't matter to me. Can't be a slave if I'm already free. Can't be a captive if it's where I wanna be. Down.
grave if I'm already free. Not a captive if it's where I wanna be.
Et je crois que ce sont les mots que Olivier Borle prononce à l'instant. Suzanne est une pièce. Bonjour, enfin, non, c'est pas vrai. Bonjour. Nous continuons l'émission avec Olivier Borle et David Mambouche. Nous parlons de cette pièce Suzanne qui est donnée, qui sera donnée. C'est la semaine prochaine, le mardi 23 janvier jusqu'au samedi 10 février, 21h. Donc c'est bien, vous avez le temps de petite sortie au restaurant ou dans du fast-food ou n'importe quoi, fast-food, je sais pas. Bref, vous faites comme vous souhaitez, 21h, soyez bien à l'heure. Proposez-vous, David, Olivier, une rencontre avec le public au terme du spectacle? Enfin, oui, de toute façon, vous buvez une bière
oui, de manière,
après, ou c'est informel?
Ouais, le théâtre de la Comédie Odéon est un endroit extrêmement sympathique où le bar est très très chouette. Donc bien sûr, on vous invite à venir, après à rester dans ce cadre qui est sympathique.
On donne des noms, Julien Poncet, Camille 14, ils sont, des gens très bien.
Hyper bien accueillis. Ben, quand même, c'est un vrai pari que Julien a fait. On s'est rencontrés tous les trois, puis on s'est très bien entendus. Il nous a invités à venir. On est pour l'instant extrêmement bien accueillis. Et puis on aura la chance de jouer en même temps qu'Intramuros de
à 19h.
Qui jouera à 19h, dans lequel on a un excellent ami à nous, Étienne Diallo, qui joue. Donc bon, on est en terrain amical, disons.
Comment, c'est une vraie question toute simple et je crois que je ne vais rien ajouter à celle-ci, comment parler de Suzanne? La pièce, le personnage, quels sont les personnages? Si finalement ça fait trop de questions, comment parler de Suzanne alors? Olivier, David.
C'est une pièce David. À deux personnages, comme on le disait tout à l'heure, qu'on a écrit en se mettant un peu dans la peau de ces personnages. Petite anecdote intéressante, c'est qu'on a écrit beaucoup de cette pièce sur Google Doc, en document partagé, avec chacun qui écrivait la réplique de son personnage et l'autre qui la découvrait sur son ordinateur et qui avait le temps de mûrir une réponse et qui faisait la réponse du personnage et comme ça, on a écrit beaucoup de la pièce comme ça. Donc avant tout, c'est une pièce de personnage. Avant tout, tu as parlé de Bakri Jaoui, c'est un petit peu aussi ce qu'il y a en commun. Il y a deux personnages. Donc Alfred, un réalisateur désabusé qui est en train de lutter pour finir un film, enfin pour écrire une scène dans ce film. Il est extrêmement préoccupé par ce film qu'il a tout le temps en tête. Et puis il y a cette présence plus mystérieuse d'une femme qui s'appelle Suzanne, qui est là visiblement, qui débat avec lui pour ce film. On peut se demander si c'est son assistante. C'est la personne qui prend les notes pour quand il a des idées, puis qui est pas forcément toujours extrêmement d'accord avec ce qu'il a à proposer et qui remet en question un petit peu son point de vue avec sa franchise et ça. Bah Suzanne, c'est un personnage, je sais pas comment t'en parlerais de Suzanne.
Ouais, c'est un personnage haut en couleur, très franche, très directe, pleine d'humour, et puis qui est sa co-scénariste parfaite, j'ai envie de dire, pour Alfred, parce qu'elle le bouscule à des endroits. C'est vrai qu'on voulait évoquer un peu autour de ce dialogue artistique, un peu ça c'est un des thèmes dont on peut parler, qui est le dialogue générationnel sur des thèmes contemporains, comme par exemple le patriarcat, c'est peut-être un mot un peu fort pour le genre.
C'est-à-dire que c'est quand même déjà ce qu'on trouvait extrêmement intéressant, c'était que on voulait faire travailler un homme et une femme sur une scène de film qui concerne d'ailleurs un personnage d'homme et ils écrivent une scène entre un homme et une femme dans le film. Et on s'est posé la question, tiens, comment c'est si Alfred Hitchcock écrit, et c'était le cas, avec sa femme, Alma Reville.
Je n'avais même pas percuté que le prénom du réalisateur, Alfred,
voilà. Bon, par exemple,
c'était Alfred Hitchcock.
Donc c'est pas Alma, c'est Suzanne, mais c'est un débat qui, on peut tout à fait imaginer entre Hitchcock et Alma, entre Alfred Hitchcock et Alma Reville, ce type de débat d'ailleurs, pourquoi une femme accepterait qu'un homme la traite comme ça. Vraiment une séance de travail de scénario à laquelle les spectateurs quelque part assistent entre Alfred et Suzanne, et chaque spectateur aura peut-être son point de vue là-dessus. Et donc ils débattent. Effectivement, elle le remet un peu en question et en place parce que lui, bah, c'est un homme d'une certaine génération qui a des poncifs ou des a priori un petit peu avalés, fabriqués, oui, comme ça, qui est pas méchant et qui est pas certainement pas. Mais bon, voilà, qui a des opinions parfois qui peuvent choquer quelqu'un qui serait un petit peut-être plus en prise avec aujourd'hui. La façon dont on peut parler à une femme déjà quand on travaille avec elle, etc., etc., quoi. Donc, non, je me trompe
tout
pas.
Tout à fait.
Donc, on assiste un petit peu à ce quiproquo, je dirais, générationnel, comme tu l'as dit, et en même temps, on est évidemment content de voir Suzanne remettre un petit peu Alfred à sa place, quoi.
Ouais, ouais. Bah, c'est vrai que nous, on est comme beaucoup d'artistes d'aujourd'hui. Brassé par les questions d'actualité, de voilà, hein, sur le comment dirais-je le regard nouveau qu'on porte sur plein de choses, notamment les rapports entre les hommes et les femmes, et il nous semblait important de pointer qu'est-ce qui est de l'ordre d'une pensée d'une génération, comment elle a pu penser les choses. Bah, on le voit bien aujourd'hui avec certains débats, comment ça devient un conflit
avec certaines tribunes, par exemple.
Voilà, il y a des tribunes qui sont défendues par des gens, bah, comme par hasard, qui sont quand même d'une certaine époque, en fait, quoi. Et donc on se dit, parmi ces gens-là, c'est quand même
j'ai
pas
vu le nom de Philippe Cobert apparaître, c'était, voilà. Je vous coupe, c'est affreux, j'ai lu toute une pleine page dans le journal, il a été signataire de la tribune, je l'ai découvert après coup,
et voilà, tout à fait,
ça sent pas très bon pour
je
lui,
crois que Depardieu va signer la tribune pour défendre Cobert aussi. Je pense qu'ils vont se serrer les coudes.
Non, mais c'est vrai qu'il y a quand même Nadine Trintignant, enfin il y a des gens qui sont quand même très très surprenants. Bon, après je veux pas rentrer dans les détails de cette affaire qui a l'air bien sordide, mais par ailleurs c'est fascinant de voir quand même qu'il y a une question de génération qui ne peut pas, si vous voulez, comme on l'a coupé une phrase dans la pièce qui disait on va pas faire la morale au vocabulaire,
je vais pas faire de procès au vocabulaire
des années 70
ou des années 60.
Elle risquerait de me rendre l'appareil. Voilà, donc on l'a coupé cette phrase, mais il y avait de ça dans notre texte, il y avait l'idée que on fait le procès de qui, en fait, et à quel moment. Mais en même temps, on est clairement, alors il faut se dire aussi, ce qu'on n'a pas dit, c'est que moi je suis drag queen. D'abord, je suis non binaire et je suis drag queen. Et donc, quand on a commencé à écrire cette pièce, une des choses quand même qu'on s'est dit tout de suite, c'est qu'on voulait que je joue en tant que. Alors, ma drag queen s'appelle Meredith. Donc, à un moment donné, on pensait que ce serait peut-être Meredith. Ouais. On penserait même que ce serait Meredith dans le rôle de Suzanne. Ouais. Bon, finalement, je suis reparti sur David parce qu'il n'y a pas de raison que je joue Meredith comme je joue Suzanne. Mais voilà. Donc c'est aussi partie de ces préoccupations là, aussi d'un monde où on te ramène sans arrêt à ton genre, à ta détermination, qu'elle soit genrée ou autre d'ailleurs, qu'elle soit de classe sociale, d'âge, et en fait comment sortir un petit peu la pensée de ces choses qui sont écrasantes pour les êtres.
Blessantes peut-être aussi.
Et blessantes, oui. C'est un mot qu'on utilise dans la
pièce. Moi, je trouve quand même qu'il y a une chose, c'est que ça nous passionne aussi. C'est que je trouve quand même que tout ce que la jeunesse, je parle facilement de jeunesse parce qu'on malheureusement je m'inclus plus tout à fait dans la jeunesse, on a une quarantaine d'années, et moi j'ai des adolescents et je fréquente des jeunes artistes, et je trouve que le débat qui porte, les questions qui portent sont, moi je trouve ça passionnant à vrai dire, et en fait c'est comme si avec David on se retrouvait un peu au milieu de monde, en fait, de deux générations qui dialoguent, et il me semblait que nous on avait peut-être quelque chose à écrire, à mettre en place du point de vue de ce dialogue qui a peut-être parfois du mal à se faire, parce que je trouve toutes les questions qui sont soulevées, qui ont été soulevées par le mouvement MeToo notamment, vraiment passionnantes, vraiment intéressantes et vraiment incontournables, quoi. Et donc voilà, ça nous a quand même beaucoup impacté dans le travail. Enfin, c'est des choses dont on voulait parler aussi.
Bien sûr.
Alors, auditeur, auditrice, je vous coupe une seconde, David, je vais être très bref. Vous écoutez là actuellement trois hommes blancs dans la quarantaine qui parlent d'un spectacle. Mais attention, nous avons une caution tout de même, nous avons une forme de crédibilité. Je vais me permettre de lire la production, la scénographie. Oui, Benjamin Le Breton, mais aux lumières, Julia, Lola Lanteri. Au maquillage et perruque, Françoise Chomérac. À la régie, bon, Laurent Basso, assistant à la mise en scène, Léo Douy. Mais productrice et administratrice pour ce spectacle, Marina Dubroca. Donc oui, il y a un peu de femme tout de même dans ce paysage.
Mais moi, bon, comme je vous ai dit, je me considère comme non-binaire.
Oui,
donc je ne me mets même pas dans la catégorie homme blanc, même si je suis blanc. Et même si je me considère autant comme un homme que comme une femme.
Quarantaine d'années.
Je ne pourrais pas y échapper, par contre.
La mathématique.
Non.
On en parle une seconde, où je vous ai coupé à l'instant, ce Meredith von Piaf. Est-ce que vous souhaitez dire quelque chose?
Meredith, c'est un personnage qui naît un petit peu du Covid aussi, enfin du confinement, parce que tout d'un coup, je suis à la maison. Puis je le faisais souvent en fait, soit de m'habiller en femme dans la vie, ce que je fais encore, mais que je fais plus maintenant, soit de m'habiller en femme au théâtre. Et j'aimais bien me déguiser, puis je l'avais fait 2-3 fois, et j'avais même joué une fois avec. J'avais remplacé Juliette dans le dépit amoureux. D'un coup, c'était Eugénie. Ouais. Eugénie Mambouche, ouais. On l'avait appelé. Ouais. C'était pas Suzanne et Meredith, mais et donc voilà. Et au moment du confinement, j'ai inventé ce personnage de Meredith. Alors j'ai commencé, c'est du homemade, hein, tout ça. Mais bon, voilà. Et puis comme je fais un petit peu de musique, je l'ai fait chanter aussi. Puis ça se développe petit à petit. Et j'ai d'ailleurs un petit projet qui va se faire au théâtre de l'Uchronie de la semaine du 20 mars. Je suis invité. J'ai une carte blanche pour faire donc je vais faire un late show qui va être présenté par Meredith von Piaf, mais on pourra en reparler si vous voulez.
C'est dans le cadre d'un anniversaire, je crois.
Moi je suis la semaine d'après, mais la semaine précédente, effectivement, mais ça tu peux en parler.
Il y aura 2 semaines où le théâtre public sera au théâtre de l'Uchronie. La première semaine, j'ai pas les dates en tête, pour fêter les 10 ans de la compagnie, avec 4 soirées spéciales qui retraceront un peu nos aventures. Et la semaine d'après, c'est Meredith von Piaf qui animera un late show que tu concoctes.
C'est ça, exactement. Donc voilà, donc c'est ça Meredith, voilà. Et puis, mais c'est pas Suzanne. Suzanne, c'est encore un autre personnage. Je sais pas quoi dire de plus sur Meredith en tout cas.
J'ai coupé tout à l'heure. Quand j'ai égrené la liste des intervenants dans ce spectacle.
Non, tout à fait. C'était vraiment pour dire que Suzanne, la pièce, en tout cas, brasse un peu, plein de thématiques, mais vraiment. On est quand même toujours centré sur une situation simple qui commence avec l'écriture de ce scénario. Mais ce qu'il faut quand même dire, c'est que, et après on ne pourra plus dire grand chose, c'est que ce soir-là, les choses ne vont pas se passer tout à fait comme d'habitude et qu'on va vite commencer à avoir des doutes. Tout le monde va avoir des doutes. Le spectateur va avoir des doutes sur l'identité réelle des deux personnages, sur leur situation, sur ce qu'ils sont vraiment en train de faire. Et les personnages vont commencer aussi à douter l'un de l'autre et à se suspecter l'un l'autre de pas être tout à fait ce qu'il prétend être. Voilà. Ça, je pense que c'est un moment. Ouais. C'est ce qui va venir petit à petit. Puis après, évidemment, on peut pas en dévoiler plus.
Ah, si vous souhaitez la billetterie, je peux donner des renseignements sur la Comédie Odéon. Oui. David, vous souhaitiez intervenir.
Ce que je voulais dire, c'était pour finir ce qu'on disait tout à l'heure. C'était pour dire que tous ces sujets qui sont aussi des sujets brûlants et qui peuvent nous mettre en désaccord, mais qui sont des débats extrêmement importants et qu'on doit tous savoir. On doit tous ouvrir notre gueule, dire des fois des conneries pour se rendre compte aussi de ce qu'on est, de où on est et d'où se situent les valeurs qu'on a les uns vis-à-vis des autres. C'est hyper important qu'on brasse ces sujets-là de manière très frontale. Mais nous, dans cette pièce, comme je le disais tout à l'heure, on voulait pas donner de leçons à qui que ce soit. On voulait simplement évoquer ces sujets pour ouvrir un débat, mais ouvrir un débat aussi à partir du cœur. Et c'est pour ça qu'on s'est mis au niveau de ces personnages, en fait. Et que c'est avant tout une pièce de personnages. Et c'est avant tout c'est une comédie intime, j'ai envie de dire. Parce qu'on va rentrer dans l'intimité de ces personnages, de ce qu'ils sont dans le fond de leur être. Et en même temps, en même temps, tous ces thèmes dont on vient d'évoquer et qui sont très importants aujourd'hui dans notre société, ils vont frémir dans la sauce tout le temps. Voilà.
Ouais, ça c'est bien.
Et alors comment vous mettez-vous en scène tous les deux, vous Vous jouez chacun votre personnage, vous avez donné des conseils à l'autre ou des éléments, parce que j'ai indiqué l'équipe de production. Perruque, oui, mais il me semble scénographie également. Mais sinon, enfin, ce que je veux dire, c'est les décors. Vous l'aviez tout à l'heure indiqué aussi, David. Peu de décors, c'est ça. C'est le théâtre. Vous parliez de Romain Renouchi, les théâtres, les tréteaux de France, c'est ça. Enfin, c'est un plateau, un tréteau, et puis des comédiens, et, oui. Et puis c'est tout.
Non, mais c'est sûr que nous, on voulait faire un objet léger. Qu'il puisse tourner, qu'on puisse jouer à la Comédie Odéon parce que c'est pas un plateau immense, parce que on voudrait pourquoi pas jouer à Avignon. Enfin voilà, on voulait faire un objet léger parce qu'on n'avait pas beaucoup de sous non plus. On est quand même quasiment en autoproduction sur ce projet par la compagnie.
Théâtre Oblique.
Voilà, par le Théâtre Oblique. On est un peu accompagné par des soutiens, mais donc du coup, et puis comme on voulait faire ce petit objet à tous les deux, David et moi, en fait on s'est assez vite entouré de complices très importants quand même. C'est important pour la mise en scène, qui sont Julie Lola Lanterry et Benjamin Le Breton au décor, à la lumière et au décor. Et donc la mise en scène, en fait, on l'a faite un peu tous les deux, et puis ensuite tous les quatre, en fait. C'est quand même des gens avec qui on travaille intimement, profondément.
La scénographie, c'est une scénographie de Benjamin Le Breton, mais on l'a vraiment travaillé ensemble tous les quatre. Ça a été un moment très très important parce qu'elle a une vraie fonction narrative aussi, cette scénographie, si simple soit-elle. La mise en scène s'est faite de manière très très naturelle parce que le texte disait beaucoup beaucoup de choses, et que très souvent ce qu'on s'est plus dit l'un à l'autre, c'est y a pas besoin de ça, 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 parce qu'en fait voilà, il suffit de dire ça et d'aller de là à là, quoi. Après voilà, comme on a beaucoup joué ensemble, on sait aussi se faire des notes mutuelles, se diriger un peu.
Et moi c'est vrai que c'est quand même un exercice que j'ai déjà fait plusieurs fois, de me diriger moi-même. Alors d'avoir toujours avec des yeux extérieurs, je voudrais quand même parler de Léo Houdoui, qui est notre assistant à la mise en scène, mais qui a été très important dans la présence qu'il a dans ce qu'il a amené, et dans le regard qu'il a porté sur nous, même sans faire des dizaines de retours, en fait, de jouer pour lui, de jouer avec lui. On voyait c'est bête, mais on voyait ce qu'il faisait rire, ce qu'il faisait pas rire, ce qu'il réveillait quand il dormait. Je plaisante. Mais donc du coup on s'est quand même entouré d'une petite équipe, avec Françoise aussi et Laurent, Marina, les gens de la compagnie. On s'est quand même entouré d'une équipe bienveillante qui, voilà, c'est vraiment le fruit d'un travail collectif quand même, même si évidemment toi et moi on en est les artisans principaux, quoi.
Mm-hmm. Tout à fait.
Voilà.
Non mais c'est important parfois, j'aurais dû le laisser durer un peu plus longtemps le blanc. Parfois il en faut, enfin du moins,
ouais,
ça laisse entendre qu'on a dit certaines choses, peut-être graves, éventuellement peut-être pas tant que ça non plus, et voilà, on reprend un peu ces esprits. Moi j'étais en train de me demander quelle pause musicale pourrions-nous faire. J'aperçois les deux derniers titres que vous m'aviez transmis, Olivier Borle. Je suppose en collaboration, hein, en étroite,
pas vraiment, non.
En dialogue avec David Mambouche.
Non, pas
la scène d'amour From Vertigo, mais c'est une version pour piano, et puis le prélude et theme. Moi j'ai trouvé la version prélude et rooftop de la bande originale de Bernard Herrmann de Vertigo. Donc est-ce que je lance un des deux titres, ou est-ce qu'un autre mot encore peut-être, je sais pas. Est-ce que
ce qu'on peut pas dire, c'est que c'est vrai qu'il y a Vertigo un petit peu dans les influences, ouais, qu'on a eues pendant l'écriture. Mais bon, c'est pas obligé d'avoir vu le film pour venir voir la pièce du tout.
Non, mais c'est vrai que cette musique, bon, Vertigo, moi c'est un, enfin, Hitchcock, c'est un réalisateur important.
Alfred
le connaît extrêmement bien. Moi je le connais moins, mais je le connais bien quand même. Et c'est vrai que Vertigo, pour moi, c'est quand même un des sommets du cinéma, et en particulier cette musique. C'est vrai qu'on peut mettre la musique d'ouverture, elle est toujours,
ouais, elle marche.
On va peut-être faire ça également, Olivier, on va vous saluer, je pense. Il faut en rester là, donc je sais pas, un mot de la fin peut-être, et il faudra confier à David le soin de continuer l'émission.
Ouais,
sans
désolé,
vous,
je suis désolé, je vais devoir m'en aller, vous laisser. J'ai très envie qu'il y ait un maximum de monde qui vienne nous voir dans cette comédie qu'on a concoctée. Généreusement, je pense, on pense beaucoup aux spectateurs.
Accepteriez-vous ce terme qu'on peut employer au cinéma, le terme de comédie dramatique?
Oui,
absolument. Oui, absolument. Au cinéma, ce serait une comédie dramatique.
Tout à fait.
Donc vous dites penser beaucoup aux spectateurs, spectatrices. Et
oui,
vous...
on a vraiment très très hâte de le partager. Il y a une belle jauge de 300 places à remplir. On a 3 semaines, 14 dates et on a très très hâte de jouer dans ce très très beau théâtre de la Comédie Odéon et venez nombreuses,
Bébé quoi, donc c'est ouais. Vrai que là on a, pour le coup on a vraiment tout fait du début à la fin, puis donc du coup et on est dedans, on est sur scène et du coup n'hésitez pas non seulement à venir mais à rester après et à venir nous parler parce que nous c'est vrai qu'on a, ouais, on est sur la lancée là et c'est le moment de nous faire des retours, c'est le moment d'échanger avec
ouais.
Voilà, de nous dire qu'on est super.
En tout cas de l'invitation.
Ce sera le mot de la fin parce qu'il est vrai que les différentes fois quand vous êtes venu, Olivier, c'était à chaque fois pour des spectacles qui étaient Saison au Congo, un texte d'Aimé Césaire, Cahier d'un retour au pays natal, texte d'Aimé Césaire aussi, Mange-clou, texte d'Albert Cohen, Avenir, différentes choses, Petite Cerisée, on l'a pas évoqué à la radio, mais vous avez monté ce spectacle, c'est Tchekhov, c'est, ouais. C'est bien ça. Il y a Avenir.
L'adaptation de la Cerisée de Tchekhov qui tourne un peu, que vous pourrez voir au Caravane Théâtre à Chassieux le 26 janvier, puis il y aura peut-être encore d'autres dates qui vont tourner. Et puis je dis quand même juste un petit mot sur le fait qu'en octobre on aura la chance avec David de créer le prochain spectacle de la compagnie qui s'appellera Ariane et qui est l'adaptation de Belle du Seigneur, donc la suite
d'Albert Cohen,
la suite de Mange-clou qu'on va créer au Théâtre de la Renaissance début octobre, voilà.
Chouette.
Un peu dans la région,
un rendez-vous d'émission, ça c'est très bien, mais là pour l'instant éditeur éditrice, nous parlons bien de Suzanne et c'est beau ce terme que vous employez, David, c'est votre bébé, vous l'avez écrit, ce n'est pas Albert Cohen, pas Aimé Césaire, ce n'est pas Anton Tchekhov, c'est bien David Mambouche et Olivier Borle qui sont les auteurs. Écoutons et nous vous saluons, écoutons le prélude d'un rooftop, c'est comme ça qu'il s'appelle ce titre de Bernard Herrmann, la bande originale de Vertigo, un film d'Alfred Hitchcock. Vous auriez la date, David? 1954, 59, 62?
Non, je ne l'ai pas.
Écoutons et puis nous continuons l'émission avec des annonces et différentes choses à dire encore. Et le titre continue. Et les invités sont partis. Le titre continue, il s'agissait bien de Prelude and Rooftop. C'est le prélude et le toit. Le toit de Vertigo, le film d'Alfred Hitchcock. Musique de Bernard Herrmann. Pour illustrer le spectacle dont nos invités sont venus nous parler, voilà, ils ont filé tous les deux. Et David Mambouche et Olivier Borle. Un train à prendre. N'appelle pas, ne laisse pas possible de quelques retards que ce soit. Donc je les ai laissés partir, je les ai relâchés. Ils nous parlaient bien de cette pièce, Suzanne, mise en scène écrite par eux-mêmes, mise en scène aussi par eux-mêmes et également interprétée du 23 janvier jusqu'au 10 février 2024, c'est du mardi au samedi à 21h, relâche le 26 janvier, relâche également les lundis et les dimanches, oui forcément du mardi au samedi, c'est à la Comédie Odéon, Théâtre Comédie Odéon, je vous en donne l'adresse électronique, www.comédieodéon tout accroché. Il n'y a pas d'accent sur le comédie ou sur odéon.com. 6 rue Grolet, numéro de téléphone pour réserver, le 04 78 82 86 30. 04 78 82 86 30. C'est cette pièce Suzanne, un spectacle d'Olivier Borle et David Mambouche. Écriture, mise en scène ainsi que jeu, ça commence la semaine prochaine. Des petites annonces pour cette fin d'émission. Donc, point de chronique de Francis. Une saison un peu compliquée pour Francis, mais il devrait être, je pense, je l'espère, de retour la semaine prochaine. Et ensuite, je crois que j'espère bien également qu'il ne nous lâchera pas jusqu'au mois de juin, jusqu'au mois de juillet. Donc voilà, quelques petites annonces et pas de chronique presque littéraire. L'égoïsme se partage. Des petites annonces. Rappelez-vous, émission passée, c'était, en retrouverai-je le numéro, émission, je crois, 313 ou 314. Était venu Omar Alouche pour parler de son livre. Je vais retrouver tous les éléments. C'était son livre. C'était Silence. Je bredouille même sur le titre du livre. En revanche, ce que je sais bien, c'est qu'il sera la semaine prochaine, le lundi 22 janvier, il sera à la mairie du 1er pour présenter ce livre qui s'appelle Éclat de silence, qui est sorti aux éditions Libelle juste avant l'été. C'était l'émission 313, le mercredi 29 novembre. Omar Alouche avait été notre invité. Si vous souhaitez l'entendre présenter son livre, lire peut-être quelques passages, si vous voulez également, je pense que ce sera bien entendu prévu, échanger avec lui, c'est ce lundi 22 janvier à venir à la mairie du 1er arrondissement, 18h, 18h30, je n'ai plus l'horaire tout à fait en tête, je retrouve cela, le mettrai sur le site et vous pourrez donc ainsi vous tenir au courant. Peu d'annonces pour cette fin d'émission et j'ai évoqué les éditions Libelle à l'instant, les éditions Libelle c'est vraiment bien, publie des textes formidables. Toute dernière publication, très récente, le texte de Sabine Collardet et François Hien, Éducation nationale, c'est l'une des dernières publications aux éditions Libelle. Eh bien, ce texte, vous connaissez François Hien, déjà venu à l'émission à plusieurs occasions. François Hien, dramaturge, pourrait-on le qualifier ainsi, c'est-à-dire écrivain de théâtre ainsi que metteur en scène. Eh bien, le texte Éducation nationale, il le met en scène. Et Sabine Collardet, qui est autrice du texte, joue dans cette pièce Éducation nationale qui se tient au TNP. C'est donné jusqu'à ce vendredi 19 janvier et pour y être allé, et je peux vous dire que c'est absolument génial. C'est une belle pièce comme François Hien sait les faire, surtout quand il est bien accompagné. Sabine Collardet assure une part importante, je pense, dans le texte. Une belle pièce, une pièce très complète, très intéressante, très riche, très émouvante, très, très prenante, très remuante sur l'éducation nationale. Il est question d'un lycée, le lycée Jean Zay, dans une cité fictive. On peut penser que l'auteur et l'autrice se sont inspirés du lycée Condorcet à Saint-Priest, un lycée dans une périphérie d'une grande ville. Donc ce lycée Jean Zay, qui est un lycée fictif, vit une année scolaire un peu difficile, un peu compliquée, avec les professeurs, les surveillants, la direction, les élèves, tout un tas de personnel, les agents d'entretien aussi. Donc tout ça, si vous voulez retrouver une classe de lycée ou bien des éléments de votre scolarité ou si vous vivez vous-même aussi une scolarité, allez donc voir cette pièce. Attention, les horaires sont un peu plus tôt, c'est à 19h30, voire demain c'est peut-être même 19h. Belle durée, un peu plus de 3h, il y a un entracte, mais c'est nécessaire et c'est vraiment prodigieux, quoi. C'est vraiment fabuleux de voir cela sur scène. D'autres pièces aussi sont données actuellement au Célestin. la pièce La Chute Infinie des Soleils de Elemawusi Agbejiji. Cette pièce a commencé hier, mardi 16 janvier. Elle est donnée jusqu'au, la semaine prochaine, jusqu'au 27 janvier, jusqu'à vendredi prochain. C'est une pièce... non, c'est pas vendredi. Le 27, ce sera mercredi prochain. Non, j'arrive plus. Ce sera samedi prochain. C'est une pièce absolument très courte, mais assez terrible dans sa présentation. Je vous la lis. L'incroyable histoire du naufrage de l'Utile, cette frégate française échouée en 1761 dans l'océan Indien. Les esclaves malgaches survivants vont être abandonnés pendant 15 ans sur un minuscule bout de terre. Une fresque qui croise des destinées hors normes avec celle d'un étudiant africain en attente de son statut de réfugié. La Chute infinie des soleils, elle est qualifiée, il est indiqué récit de survie sur la brochure des Célestins. D'autres pièces sont à venir également. 40 degrés sous zéro, une pièce mise en scène par Louis Arène avec le Monstrum Théâtre. Et puis, ça, ce sera du 7 au 10 février et plus proche de nous, 24 janvier, c'est-à-dire la semaine prochaine, mercredi prochain, jusqu'au 3 février. Welfare, une pièce de Frédéric Wiseman, disons, un film de Frédéric Wiseman, un documentaire adapté par Julie Deliquet. 2h30, Le Figaro en dit remarquable, touchant et d'une incroyable cocasserie. Après un conte de Noël, 8 heures ne font pas un jour. Julie Deliquet adapte le grand documentariste américain Frédéric Wiseman qui avait posé sa caméra dans un centre d'aide sociale new-yorkais en 1975. Voilà, il y a encore d'autres pièces aussi à venir au Théâtre des Célestins, mais ce sera un peu plus tard dans la saison et nous en parlerons. Peut-être même parlerons-nous du Théâtre des Célestins avec des artistes, des comédiens ou metteurs en scène, auteurs de différentes pièces qui sont données dans ce théâtre. Et pour ce qui est des concerts, l'orchestre a donné la semaine dernière une vie de héros, l'ONL, et cette semaine, il y a également un programme, je ne l'ai plus sous les yeux, je crois que j'ai à peu près dit tout ce que j'avais à dire. Barbe Bleue viendra un peu plus tard, ça commence le mercredi 24 janvier, donc c'est la semaine prochaine, jusqu'au dimanche 4 février. Mise en scène de Laurent Pelly, et puis des expositions, Forme de la Ruine continue jusqu'au dimanche 3 mars, c'est au musée des Beaux-Arts. Voilà, je n'ai pas fait le tour de tout ce qu'il y avait à dire, mais en évoquant Omar Alouche et puis un peu les Célestins et l'opéra, j'ai tout de même dit l'essentiel. Et surtout, Suzanne, dont nos invités nous ont parlé, Olivier Borle et David Mambouche, mise en scène la semaine prochaine. Ils l'ont également écrite et ils jouent dans cette pièce. J'ai Suzanne, ce nom qui me venait parce que c'est le dernier titre musical. On va se quitter avec un titre de Suzanne Vega, World Before Columbus, un titre extrait de l'album Nine Objects of Desire, sorti le 7 septembre 1996. Oui, j'extrais cela d'une compile des Inrecuptibles, une compilation assez ancienne, hein, 96. Ça lui fait près de 30 ans à cette compilation. Écoutons Suzanne Vega pour se quitter. Nous nous retrouverons la semaine prochaine. Peut-être sans invité, peut-être relâche, peut-être que le plaisir de revoir Francis fera qu'il nous donnera plusieurs chroniques. Je ne vous quitte pas, je ne vous abandonne pas sans vous indiquer les programmes à venir. À 16h, Blues des Canuts, 18h, Mayday, 19h, le Canu Info, 20h, Idée Noire, 21h, la bande-son de nos révoltes, et de 10h jusqu'à minuit, Bully Mix, émission Funky Stéry. Les bandes continues vont commencer dans quelques instants. Vous pouvez les écouter, c'est très bien. D'ici la semaine prochaine, portez-vous bien. Nous, on se quitte avec Suzanne Vega, World Before Columbus. Voilà, j'ai tout dit. À très bientôt. Au revoir tout le monde. If your love were taken from it would be as white as